C'est parti pour le module 3 sur la configuration de ces différents éléments pour la protection de machines virtuelles dans Azure. Quelles sont les étapes qu'on va employer pour faire ça, Stanislas ?
En gros, on a 7 étapes à suivre. Donc la première va consister à créer ce qu'on appelle un Azure Site Recovery Vault, coffre-fort en français si on le traduisait, hein, mais c'est l'idée. Ensuite, une fois qu'on a fait cette opération, on va créer un ou plusieurs sites Hyper-V. Donc des sites Hyper-V, c'est des groupes en fait de serveurs Hyper-V. Mm-hmm. Donc ça s'appelle un site, mais à la limite vous pouvez prendre deux groupes différents qui sont géographiquement dans le même endroit et en faire entre guillemets deux sites. Ensuite, on va télécharger et installer les agents. Enfin, il y a écrit l'agent ici, mais en fait il y en a deux, mais c'est un seul package d'installation. L'agent SR sur le ou les serveurs Hyper-V sur lequel il y a des machines virtuelles à répliquer. Étape numéro 4, on va créer un compte de stockage Azure, qui, vous l'aurez compris, va contenir en fait les réplicas des machines virtuelles. On va créer également des réseaux virtuels dans Azure, qui, vous l'aurez compris, serviront de réseau pour les machines virtuelles qui seront du coup réinstanciées dans Azure. Ensuite, on va créer un groupe de protection dans ASR. C'est un groupe de protection qui vous permet de définir en gros la configuration de la réplication de la machine virtuelle. Et ensuite, une fois que le groupe de protection, le ou les groupes de protection ont été créés, on va ajouter des machines virtuelles à répliquer dans ces groupes de protection.
Ça paraît relativement simple. Est-ce que ça l'est réellement quand on fait ça ?
Si on suit, effectivement, si on garde ces 7 étapes bien alignées, globalement, ça se passe plutôt bien. Donc pour gagner du temps, j'ai fait des captures d'écran des premières étapes, parce que ça prend un petit peu de temps de faire toutes ces opérations. Donc, première chose, la configuration d'Azure Site Recovery se fait aujourd'hui encore dans le portail bleu, donc le portail dit production, donc on n'est pas encore dans le portail dit preview. Vous allez donc dans Nouveau, vous allez dans Recovery Service. Là, vous avez deux options, les Backup Vault ou les Azure les Site Recovery Vault. Donc on va prendre Site Recovery Vault. Là, il n'y a pas de choix possible, c'est Quick Create. Vous donnez un nom qui doit être unique et vous sélectionnez une région. Donc dans la logique, on prend en général la région qui est la plus proche de son data center, de sa salle machine en termes de latence. Si vous êtes en France, en gros vous avez le choix entre Amsterdam ou Dublin. Je crois qu'Amsterdam doit être légèrement plus rapide en termes de latence. Un petit point sur la géographie, West Europe correspond à Amsterdam. Mm-hmm. Et North Europe, dans l'interface d'Azure, correspond à Dublin.
Voilà, les cartes ont été fournies par CNN.
Exactement. Une fois que dès qu'on va lancer cette création, on va vous poser une question, on va vous dire, dis donc, quel est l'usage de ce Vault que tu veux faire ? Est-ce que tu es plutôt développeur ? Quel est l'objectif de ce Vault ? Quel est ton environnement source et quel est l'environnement destination ? En fait, Azure Site Recovery, c'est l'objectif de cet ensemble de cours sur le PRA avec Azure Site Recovery, c'est qu'on a plein d'options différentes, donc il va falloir choisir. Donc, dans les choix au niveau de quel type d'entreprise tu es, vous pouvez effectivement définir ici les différentes tailles. Et puis, pourquoi vous mettez en place ce Vault ? Est-ce que c'est pour de la production ? Est-ce que c'est pour évaluer ? Est-ce que c'est une démo ? Donc, ça permet comme ça également d'avoir un petit peu de remonter de notre côté sur les usages, effectivement, ce qui nous permet de fournir des nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins. Et ensuite, vous sélectionnez, effectivement, dans mon cas ici, je vais faire de l'Hyper-V à destination d'Azure Site. Donc, on sélectionne bien. Par contre, ça, c'est très important de prendre ces éléments-là. Une fois que le Site Recovery Vault est créé, eh bien, après, on a différentes petites étapes à faire. Donc, créer un Azure, un Hyper-V site, donc je l'ai dit, un site Hyper-V, ça regroupe simplement un ensemble de serveurs Hyper-V. D'accord ? Donc, on fait nouveau site Hyper-V, on lui donne un nom. Une fois que c'est créé, on peut en créer d'autres, si on a plusieurs sites ou si on a plusieurs groupes différents de serveurs Hyper-V, là encore, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va télécharger l'agent et la clé pour les serveurs Hyper-V. Donc vous voyez qu'il y a deux choses ici. La registration key, en gros, c'est ce qui va permettre d'identifier un serveur Hyper-V vis-à-vis d'un Azure Vault qui a été créé. Il y en a certains qu'on ne va pas répliquer chez quelqu'un d'autre. C'est une identification en fait par certificat, pour faire simple. Et le provider, en fait, c'est les deux agents en fait, qui seront installés sous la forme d'un même package d'installation. Donc, on télécharge la registration key qui correspond en fait, il y a une registration key.
Pas
facile à dire. Donc une clé d'enregistrement par site qu'on a créé Hyper-V. Donc on a effectivement d'un côté ce qu'on appelle les Vault Credentials à télécharger, donc ça c'est la clé d'enregistrement. Et puis le Azure Site Recovery Provider.exe qui est en gros le package d'installation des deux agents de réplication qu'on va installer sur le serveur Hyper-V. Une fois qu'on est sur le serveur Hyper-V, c'est c'est un assistant d'installation tout à fait classique qui vous dit « Est-ce que tu veux faire du Microsoft Update pour maintenir à jour cet agent ?» C'est fortement recommandé. Ensuite, on choisit où est-ce qu'on veut installer l'agent. Il l'installe. Et là, ensuite, l'option suivante consiste à enregistrer, donc à associer en fait le serveur Hyper-V à un Azure Vault. Et dans cet Azure Vault, elle associe en fait à un site Hyper-V qu'on a créé. Donc là, on a une question qui est sur la connectivité du serveur vis-à-vis d'Internet. Donc là, en fait, on a les différentes options avec ou sans proxy, ou avec des proxys un peu particuliers. Donc c'est là, c'est intéressant. Si vous souhaitez connaître les URL ou les adresses IP des serveurs Azure, ils sont entièrement documentés sur le site de Microsoft. Donc on peut télécharger comme ça si vous voulez faire un filtrage derrière. Et ici, vous allez sélectionner ensuite le fichier de credential, donc la clé d'enregistrement, la registration key, que vous avez téléchargé. Donc faites un browse, vous allez chercher votre clé. Là, ça vous donne le nom de l'abonnement associé derrière pour vérifier. Le nom, ça vous donne le nom de l'Azure Vault et le nom du site. Du coup, derrière, il va faire un système de création de certificats et puis une association en fait entre les deux parties.
Parfait.
Voilà. Désormais, on vous dit que le serveur est enregistré dans Azure Vault et on vous dit que les prochaines étapes, c'est de configurer la protection des machines virtuelles directement dans Azure. Une fois que la protection est faite, c'est-à-dire le paramétrage des types d'applications qu'on souhaite faire, eh bien, on va mettre des machines virtuelles à répliquer dans ces groupes de protection, tout simplement. Alors, juste avant de faire ces groupes de protection, on a une petite préparation qu'on appelle des ressources, qui a consisté, un, à créer un compte de stockage dans Azure, qui va stocker en fait les données répliquées, donc les VHD des machines virtuelles, et qui servira donc de démarrage pour instancier les nouvelles machines virtuelles qui seront créées dans Azure Safe Recovery. Et deuxième chose, c'est de créer un Azure Virtual Network pour reproduire en gros les réseaux virtuels qui existent sur site et les reproduire dans Azure. Du coup, la machine virtuelle, comme ça, l'environnement, vous allez pouvoir le recréer en fait de l'autre côté dans Azure. Donc pour créer du stockage, ça c'est des choses que vous connaissez probablement. On va effectivement dans la partie Data Service, Storage, Quick Create. On donne un nom qui est unique. La localisation doit être située, vous l'aurez compris, dans le même endroit que l'Azure Vault.
C'est pas mal.
Ouais. C'est mieux. Et ensuite, vous pouvez choisir sur la redondance ici de faire de la géoréplication ou pas. Ce n'est pas forcément nécessaire. Je pense que ce n'est même pas nécessaire pour des économies. Donc vous pouvez prendre la réplication géo-redondante ou local redondante, ça suffit largement. Ce sont les données qui sont simplement répliquées dans le data center. Une fois que ce stockage est fait, vous allez venir créer un network service. C'est là où vous allez créer en fait vos réseaux virtuels avec le plan d'adressage. Donc là, vous allez redonner le même plan d'adressage que ce que vous utilisez avec vos machines virtuelles en interne. Parce que le but, c'est de les redémarrer sur les mêmes plans d'adressage IP. On est d'accord, hein. On redémarre data center avec le même plan d'adressage. On ne va surtout pas les changer les machines virtuelles. Localisation, là encore, c'est important de le mettre dans le même endroit que le stockage et que l'Azure Vault. C'est logique, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et puis, si vous choisissez votre plage d'adresse IP et vous créez le réseau virtuel. Vous pouvez en créer d'autres si vous voulez faire plus... Enfin, vous pouvez retourner dans les propriétés du network, éventuellement créer des subnets complémentaires si vous avez une division de votre plan d'adressage en plusieurs subnets. Donc ça, on pourra le faire, mais on ne le fera pas directement depuis l'assistant Quick Create. Il faudra retourner ici dans la console Network d'Azure et aller faire la modification à la main. L'idée, c'est de recalquer ce que vous avez aujourd'hui utilisé en réseau virtuel avec Hyper-V et de le recalquer en fait dans Azure. Ensuite, on va créer et configurer ce qu'on appelle les protection groups. Donc un protection group va contenir en fait tout l'ensemble des paramétrages d'une réplication. Donc, on crée un protection group, on lui donne un nom. Donc là, le nom ici que j'avais choisi n'est pas très bon pour cet exemple. Depuis, j'ai refait une configuration qui était un petit peu plus logique dans mon cas. Dans mon cas, j'ai créé deux groupes de protection, un groupe de protection machine Linux et machine Windows. La raison en fait principale, c'est que tu le dis tout à l'heure, le support de VSS, des snapshots, des clichés instantanés, est valable au sein des machines Windows. N'est pas valable, ne fonctionne pas avec les machines Linux, parce qu'ils n'ont pas la techno implémentée à l'intérieur. Donc du coup, si vous mixez en fait dans un groupe de protection des machines Windows et des machines Linux, et que vous activez les snapshots VSS, ils seront bien faits sur les VM Windows, mais du coup sur les VM Linux, comme ils ne peuvent pas être faits, ça va générer du bruit en fait, des messages d'erreur, qui sont tout à fait normaux, mais du coup, ce n'est pas intéressant. Donc c'est plus intéressant d'avoir deux groupes de protection, un pour Windows, un pour Azure, et comme ça, pour Windows, vous activez tout ce qui est VSS.
Pour Windows et un pour Linux.
Pardon, un pour Windows et un pour Linux. Celui pour Windows, vous activez la fonction VSS, Et dans le groupe de protection pour Linux, vous ne mettez pas le VSS. Et du coup, comme ça, vous n'avez pas ce bruit de messages d'erreur qui ne sont pas nécessaires. Donc, le groupe de protection, on va dire, il est pour tel site Hyper-V. Donc, c'est toujours à destination d'Azure. C'est grisé ici parce que c'est l'option que j'ai choisie dès le départ. Et on me dit sur quel abonnement je souhaite faire ceci et quel est mon compte de stockage que j'ai créé au préalable. Voilà. Deuxième écran de paramétrage, on va choisir ici la fréquence de la copie. Donc, c'est-à-dire la fréquence de la réplication, ce qui correspond ni plus ni moins en fait au RPO, le Recovery Point Objectif. On est capable également d'avoir plusieurs points de retour arrière dans Azure. Donc, on peut en prendre, là, on définit combien d'heures on va pouvoir faire en rétention. Donc, l'intérêt, c'est que si par exemple on a une seule machine qui brûle et les serveurs brûlent au fur et à mesure et que du coup les réplications ont un peu continué le temps de l'incendie, de se dire bon, on va faire tout redémarrer en fait sur un état où le data center est encore sain à cet instant T. On peut également donc faire des snapshots basés VSS, donc qui sont cohérents avec les applications en train de tourner. Mm-hmm. Et donc là, on choisit ici la fréquence. Tous ceux qui ont déjà fait un petit peu d'Hyper-V Replica retrouvent également, c'est tout à fait les paramétrages qu'on met dans Hyper-V. Et puis vient le moment également, le choix de la réplication initiale, c'est-à-dire l'intégrité de la VM qui va être répliquée à destination d'Azure, et après ce sera que du Delta. Si on n'a pas une bande passante qui est super large, ou qu'on a des gens qui sont en train de travailler, on peut donc, option numéro 1, si on a une grande bande passante, on peut dire, allez, envoie la réplication. Option numéro 2, on peut dire, je vais planifier ma réplication initiale, par exemple, sur un week-end ou des congés, par exemple, un week-end un petit peu long, des congés. Et comme ça, du coup, ça n'impactera pas trop ma production. Voilà. Donc, une fois que la configuration est faite, ce qui est le cas ici, eh bien, on va protéger des machines virtuelles et donc en rajouter. Donc, là, je vais rebasculer la sauce qui est un petit peu longue à faire. Je vais rebasculer sur la démonstration.
On a fait les prérequis, là. On a fait les prérequis. Maintenant, on va faire vraiment la protection de la machine.
Donc, je suis ici sur un Azure Vault. Alors, tu vois ici que j'ai créé, comme j'expliquais tout à l'heure, deux groupes de protection. Un pour Linux et un pour mes VM Windows Server 2016. Mm-hmm. Les deux sont configurés. Je vois les protected items, c'est déjà le nombre de VM qui ont été protégés là-dedans. Donc je vois ici que dans mes VM Linux, par exemple, j'ai un serveur qui s'appelle Ubuntu Server 01, qui est pour l'instant dans un état de santé OK, il est bien répliqué, et statut protégé. Si je vais sur mon serveur Hyper-V associé, on voit ici cette VM Ubuntu, quoi, avec ici un état de réplication qui est normal. Et si je regarde mes propriétés, je vois bien effectivement que je suis donc sur le site primaire. C'est mon serveur qui s'appelle Hyperstan 7 et mon réplica est sur Azure et la réplication est normale.
D'accord, donc comme on voit quand on est dans le mode data center, on voit le nom du serveur en face, là on voit bien qu'on est répliqué vers Azure.
Ici effectivement dans la réplication on voit Microsoft Azure.
Parfait.
Alors comme je l'ai dit, en fait quand on est dans du Windows Server et qu'on veut répliquer une machine virtuelle, donc on vient ici, on fait bouton droit, on fait activer la réplication et puis ensuite on donne ses paramétrages, on sélectionne son serveur de réplica. Donc ça, quand on a de l'Azure Site Recovery, on ne le fait pas ici dans cette console. On va aller dans la console d'Azure Site Recovery qui est ici. On va venir donc sélectionner, se placer dans un groupe de protection. Donc là, je suis dans mes machines Linux. Si je veux modifier par exemple les temps de réplication, je viens sur Configure. Et ici, je retrouve mes éléments, c'est-à-dire ma fréquence de réplication, mon taux de rétention. Si je fais ou pas des snapshots applicatifs, donc j'ai mis Never ici parce que je suis dans le cas d'une machine Linux. Mm-hmm. À noter, on peut choisir également de chiffrer, ils appellent ça on-rest, au repos, entre guillemets, les éléments qui sont la VM qui est stockée dans Azure. Attention, comme on le disait tout à l'heure, ça a un impact en fait sur le RTO qu'on vous garantit contractuellement. On est sur un RTO de 4 heures quand 4 heures ou 2 heures.
On est sur un RTO de 6 heures en mode chiffré et de 4 heures en mode non chiffré.
Voilà, donc c'est ici qu'on va choisir si on est chiffré ou non chiffré. Et donc, pour ajouter une machine virtuelle ici, donc je vais rajouter mon Ubuntu numéro 2. Je vais simplement cliquer ici sur Add Virtual Machine. Là, il est en train de m'analyser les machines virtuelles qui n'ont pas encore été protégées et qui tournent sur mon serveur Hyper-V qui a l'agent, ou mes serveurs Hyper-V qui ont l'agent. Donc, je vais prendre ici ma machine Ubuntu. Je dois sélectionner ici le système d'exploitation associé. Donc, c'est un Linux. Je choisis ici le nom de l'abonnement dans lequel je souhaite réinstancier éventuellement et sauvegarder dans SR ma machine et dans quel compte, quel storage réplique. Alors il prend automatiquement les paramètres qui sont associés à l'Azure Vault que j'ai bien configuré au préalable et donc là c'est propre. Là je fais OK. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh bien, au travers du canot de connexion entre l'agent et Azure Site Recovery, eh bien, en fait, il va y avoir une configuration directement sur Hyper-V de la réplication avec un départ de la réplication. Donc là, c'est en train de tourner, oui, on a la protection qui est en cours. Et si je vais sur mon serveur Hyper-V, alors c'est pas encore redescendu, ça va prendre quelques minutes à peu près, et du coup, automatiquement, la machine va passer dans un état réplication initiale et configuration. Alors, on voit ici qu'on est sur Enabling Protection. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a une zone qui s'appelle View Job. Donc, en fait, il y a tout un ensemble de tâches qui est effectué dès qu'on fait ce paramétrage. Et on peut aller voir où on en est. Donc, si je fais un View Job, donc là, il y a eu un test des prérequis qui a été fait. Ça, c'est bon. Là, il est en train d'identifier la cible de réplication. Il va activer la réplication, démarrer l'application initiale et mettre à jour l'état du provider. Il saura du coup que le provider est telle version et qu'il est synchronisé depuis tant de temps, etc. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. On va laisser tourner tranquillement. Et est-ce que ça prend un petit peu de temps et le statut va passer ici en Initial Replicate et puis ça va partir tranquillement. On le reverra tout à l'heure de toute façon dans le reste de ce cours MVA. Donc, c'est ce que je vous ai montré. Voilà. Donc ça, je vous l'ai montré, c'est le job. Et quand c'est tout terminé, donc là, quand ça sera terminé, on aura toutes les cases qui sont ouvertes. Donc vous voyez un petit peu le temps que ça peut mettre. Donc là, on me dit que ça a duré à peu près une minute, deux minutes pour lancer l'ensemble de l'opération. Et effectivement, quand la machine virtuelle démarre la réplication, il part en replication health en normal, et puis on voit le pourcentage en fait de réplica qui est envoyé.
C'est le moment où on appréciera d'avoir des gros tuyaux pour envoyer les données vers Azure.
Exactement. Parce que du coup, alors on verra ça dans le module des bonnes pratiques. Il y a des choses qu'on peut faire pour optimiser la taille envoyée. Alors à noter, tu as dit tout à l'heure qu'on peut avoir des machines virtuelles avec plusieurs interfaces réseau. Par contre, donc ça, quand c'est la source, la destination doit également s'adapter en termes de modèle de taille de machine virtuelle. Donc, typiquement, si on a donc les machines de type A3 ou A6, on peut leur installer jusqu'à deux interfaces réseau sur la VM dans Azure. Si on est sur de l'A4 ou de l'A7, ce sera quatre interfaces réseau. De l'A9, c'est deux interfaces, de la D3, c'est deux, de la D4, c'est quatre, et de la D13, c'est quatre.
C'est assez subtil, hein ?
C'est assez subtil, et c'est d'ailleurs pour ça que, du coup, on vous l'a écrit.
Et justement, ce mapping entre les cartes réseau qui ont été détectées sur site et les cartes réseau dans Azure, il nous les donne. Et ça, c'est sympa parce que on peut voir du coup le nom de la carte réseau, la carte physique telle qu'elle est détectée. Alors ici, c'est marqué LAN intégré, Virtual Suite, comme ça que ça s'appelle chez toi, oui. La carte réseau, parce que c'est une VM. Donc on a le nom du vSwitch et puis ensuite, on map vers le switch virtuel, vers le réseau virtuel à l'intérieur d'Azure également. Et on peut spécifier l'adresse IP manuelle si on veut une adresse IP manuellement dans ce réseau.
Exactement.
Si c'est une adresse IP qui est configurée comme étant automatique DHCP sur site, il va la mapper automatique également sur le site de destination.
Exactement. Et donc, cette adresse IP qu'on va préciser ici, c'est celle qu'on verra effectivement dans l'OS quand on fait un ipconfig ou un ifconfig quand on est sur Linux.
Et bien voilà pour cette première étape de mise en œuvre de la réplication des machines virtuelles vers Azure. La prochaine étape, c'est de définir un plan de reprise d'activité.